ici Aline et Sondet, bulletin d'information locale et régionale de CAGA-FM. Ce n'est désormais plus qu'une question de temps avant que les violences coercitives soient inscrites au code criminel et donc possiblement passibles de sanctions. La loi C-332, qui modifie le code criminel en vue de condamner les conduites contrôlantes ou coercitives, est passée en deuxième lecture le 7 février dernier et en est à l'étape de l'étude en comité. Elle devra ensuite être lue au Sénat avant d'être officiellement adoptée. Le député NPD Alexandre Boulris a réagi à ce dossier et considère la progression des travaux en chambre comme une victoire.
En fait, c'est une grande victoire. C'est une grande victoire parce que au lieu d'attendre que la situation se dégrade et que la violence s'envenime et qu'il y ait des blessures, il va y avoir un outil pour être capable de mettre fin à ce contrôle-là, à ces abus-là de la part d'un conjoint qui éventuellement pourrait devenir violent. Alors, c'est un outil de plus pour protéger les femmes. C'est une belle victoire pour le mouvement des femmes puis l'ensemble des femmes des sociétés québécoises canadiennes.
Alexandre Boulris a rappelé que 4 femmes sur 10, soit presque 50% de la population féminine au Canada, d'y avoir déjà subi des violences physiques, psychologiques ou sexuelles, ce qu'il a qualifié d'énorme. L'élu NPD a ensuite appuyé le fait que le contrôle coercitif a été identifié comme annonçant un féminicide.
Par exemple, un conjoint ou un partenaire qui pourrait confisquer des clés de voiture pour empêcher de la mobilité, le déplacement de sa conjointe, qui pourrait prendre possession de son passeport, enlever les pneus d'une automobile ou alors saisir ses cartes de crédit.
Avec l'adoption d'une loi qui condamne les violences et le contrôle coercitif des conjoints envers leurs femmes, les juges pourront désormais tenir compte de ce qui a pu arriver avant les coups. Le député Alexandre Boulris explique les nuances de la prochaine loi.
Là, on ne veut plus attendre qu'il y ait un coup de poing ou un coup de pied qui soit donné pour que le juge ait le pouvoir d'agir. Il va pouvoir agir dès qu'il y a suffisamment de preuves de comportement coercitif. Et c'est ça la grande différence que le projet de loi va offrir, c'est cette capacité du juge d'émettre des ordonnances afin de protéger la conjointe.
Selon l'Institut national de la santé publique du Québec, les meurtres conjugaux seraient la forme la plus fréquente d'homicide familial au Québec et 14 femmes ont été tuées en 2021 du fait de la violence conjugale. Dans la suite de l'actualité, l'entreprise spécialisée en production d'énergie renouvelable, Evolugen, a dans sa mire la construction de 2 centrales hydroélectriques au fil de l'eau dans la vallée de la Gatineau. Les installations seraient construites sur la rivière Gatineau à Grand Remous ainsi qu'à Maniwaki. Félix-Antoine Parent s'est penché sur le sujet. Voici son reportage.
La construction de centrales comme celles projetées dans la région pourrait s'étendre sur 10 ans. Evolugen estime qu'un projet comme celui-ci serait porteur pour la vallée de la Gatineau et aurait des retombées économiques importantes. Bien qu'il soit trop tôt pour s'avancer sur l'importance de ces retombées, Maxine Mongeon, directrice principale développement de projets au Québec chez Evolugen, indique que la simple construction des centrales représente un investissement colossal.
On parle vraiment des retombées économiques qui vont durer sur une très longue période de temps. Aussi, ce que je peux vous dire, en fait, du niveau d'envergure, et encore une fois, c'est des chiffres qui sont non seulement préliminaires, mais estimés, mais des barrages comme ça, ça peut coûter jusqu'à 1 milliard à construire. Donc, on parle de gros investissements dans la région.
Pour l'instant, les démarches sont au stade préliminaire et plusieurs étapes essentielles à la réalisation du projet doivent être entreprises au cours de l'année. Parmi celles-ci, Evolugen compte obtenir une entente commerciale avec Hydro-Québec, mettre la main sur les permis nécessaires et procéder à diverses études préliminaires et consultations publiques auprès des résidents de Maniwaki, de Grand Remous, mais également de Kitigan-Zibi. Il est important pour l'entreprise d'inclure les Premières Nations dans les discussions, telles que le mentionne Maxine Mongeon.
Une grande partie de ces projets d'énergie renouvelable se font en consultation et en partenariat avec les communautés autochtones des régions, évidemment à Maniwaki, Grand Remous, Sikitikanzibi. L'entente qu'on a avec eux en ce moment, c'est simplement d'évaluer ces projets ensemble. Et ça fait partie aussi de la réconciliation au Canada, évidemment. Et donc, c'est très important d'avoir leur participation dans les projets.
Selon les informations obtenues par CAGA-FM, plusieurs élus de la vallée de la Gatineau ne seraient pas favorables à ce projet, eux qui craignent un impact négatif au niveau du développement récréotouristique de la rivière Gatineau, notamment. Evolugen compte rencontrer rapidement les élus afin de répondre à leurs préoccupations et de leur exposer tous les aspects du projet.
On est en contact avec la MRC de la vallée de la Gatineau et les municipalités de Grand-Remous et de Maniwaki pour l'instant. On prévoit faire une rencontre avec elles dans les prochaines semaines et mois et on va entendre évidemment les inquiétudes puis trouver des moyens à ce que tout le monde y trouve son compte. C'est ça l'idée ici, c'est qu'on fasse du développement durable et qui bénéficie aux communautés.
C'est au terme de ces différentes étapes que l'emplacement exact des barrages sera déterminé. C'était Félix-Antoine Parent pour CAGA FM.
Dernière nouvelle, après 8 mois de travail, la loi 31 sur le logement a été adoptée à l'Assemblée nationale. Cette loi vise à contrer les évictions abusives, à rétablir l'équilibre entre locateurs et locataires et à accroître l'offre de logements au Québec. Cette loi inquiète le président de Logement en santé Vallée de la Gatineau, Robert Bergeron. Celui-ci admet que certains propriétaires agissent par avarice, mais ajoute que pour d'autres, il s'agit du seul moyen d'accéder à la propriété. Monsieur Bergeron mentionne qu'il est déjà excessivement difficile pour un propriétaire d'expulser un locataire.
Pour ceux qui ne payent pas leur loyer, par exemple, on a eu un très bon exemple avec Logement Santé. Les gens n'ont pas payé de juin. Par le temps qu'on a paru en cour, c'était au mois de décembre, janvier. Donc, la cour nous dit, après que personne n'est parti par elle-même, qu'elle doit payer 4 000 ou 5 000 ou 6 000. Mais on sait très bien que c'est un cas perdu.
Pour appuyer son propos, le président de Logement en Santé, Vallée de la Gatineau, partage l'anecdote d'un propriétaire aux prises avec la présence de squatteurs.
Le propriétaire louait et découvre des squatteuses dans le logement. Puis il y a 3 personnes là-dedans ou 4 qui se sont implantées dans le logement. Le propriétaire fait venir la police. La police dit que ça prend un huissier. Le huissier dit qu'il y a des clauses qui dit que pour une tierce personne, même si le nom des personnes qui sont là ne sont pas sur le bail, dans ce cas-là, encore, ils sont protégés par la loi.
Pour Robert Bergeron, la protection du locataire est primordiale. Mais il faut faire attention à ne pas davantage alourdir les procédures juridiques exigées aux propriétaires. Voilà, c'est ce qui complète votre bulletin d'information local et régional de CAGA FM.